L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui vendredi 11 juin et je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau dans cette émission autour de l'actualité mayennaise. Aujourd'hui, nous allons parler justement d'une application de covoiturage en partenariat avec Laval Agglomération. Ça s'appelle Klaxit pour justement favoriser le covoiturage au sein du territoire. On va aussi parler de la très jolie programmation estivale du pays de Château-Gontier avec pas mal d'animations culturelles prévues tout cet été. Et puis, on va aussi évoquer l'association l'ADAVIP 53. Donc l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales qui est justement a un rôle très important dans le fonctionnement de la justice et donc vous entendrez justement comment se déclinent ces actions. Et puis en fin d'émission, nous sommes vendredi, donc vous profiterez aussi de notre chronique service civique et aujourd'hui on part du côté de Nantes au micro de Jet FM. Mais tout de suite, faisons d'abord un petit point sur l'actualité. Un appel à manifester demain contre l'extrême droite. La Ligue des droits de l'homme 53 et d'autres organisations veulent dénoncer, je cite, la banalisation des idées d'extrême droite au sein de notre société. Le rendez-vous est donc fixé à demain à 14h30 devant le palais de justice pour une marche prévue jusque devant le théâtre de Laval. Ce qui inquiète les organisateurs, je cite encore, les attaques contre les libertés et les droits sociaux qui s'accentuent gravement et en parallèle plusieurs lois liberticides qui organisent une société autoritaire de surveillance et de contrôle qui empêcherait d'informer sur des violences policières. À l'huisserie, le drive mis en place finalement ce mardi. Après l'incendie du U-Express il y a une dizaine de jours, un drive va être proposé. Les clients devront passer commande sur le site internet courseu.com. Ils pourront ensuite retirer leurs achats le mardi et le jeudi de 11h à 13h et de 16h à 19h dans les vestiaires du City Park, non loin du magasin. Ce lieu sera mis à disposition jusqu'à la fin du mois d'août. Un cycliste grièvement blessé dans un accident à Château-Gontier. Une collision a eu lieu hier vers 17h près du parc de Loisillières entre un cycliste et une voiture. L'adolescent âgé de 14 ans a lourdement chuté sur la route. Blessé, il a été héliporté vers le CHU d'Angers. La conductrice de la voiture et sa fille, elles, ont été prises en charge par l'hôpital du Haut-Anjou. Enseignement supérieur, la passe d'armes continue entre le département et la ville de Laval. Laval Agglomération qui ne s'est toujours pas prononcée sur la subvention sur les travaux d'agrandissement de l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest. Le président du conseil départemental, Olivier Richefour, rappelle que tous les projets en matière d'enseignement supérieur, qu'ils viennent du public ou du privé, doivent être soutenus. En l'occurrence, les écoles privées, l'UCO, Holberton School ou l'école de design de Nantes ont le feu vert du département et de la région, mais pas de l'agglomération. Selon Olivier Richefour, ces hésitations ne sont pas de bons signes envoyés à ces écoles qui souhaiteraient s'implanter à Laval. À Laval justement, où le plan canicule a été activé jusqu'au 15 septembre. Un registre des personnes isolées fragiles est mis en place par le CCAS de la ville pour pouvoir leur fournir une aide particulière en cas de forte chaleur. Et pour s'inscrire, il suffit d'appeler le 02 43 49 47 30. Le même dispositif est mis en place à Château-Gontier. Là aussi, on peut s'inscrire sur le registre nominatif pour que le service d'aide et d'accompagnement à domicile veille, par exemple, à téléphoner tous les jours à la personne. Ici, pour vous inscrire, il faut s'adresser au CCAS, à la mairie ou par téléphone au 02 43 09 55 43. Ce week-end, en sport, il y a notamment du cyclisme avec le Tour du Bocage et de l'Ernée, organisé par l'association Organisation TBE 53. Une épreuve cycliste junior qui se déroule en 3 étapes. Une épreuve de course en ligne de 127 km, ce sera demain après-midi. Puis un contre-la-montre individuel de 16 km à Goron dimanche matin, suivi dimanche après-midi d'une course en ligne de 111 km. Je vous le disais en tout début de cette émission, Laval Agglomération veut favoriser le covoiturage pour aller au travail. Et dans ce but, elle a conclu un partenariat d'un an avec l'application Klaxit, spécialisée dans les déplacements travail-domicile. Les premières expérimentations ont lieu ce mois de juin avec 8 entreprises, Manumel, Bridor, l'Hôpital de Laval, Séché Environnement, Willow, SNV, Nose ou encore Laval Agglomération. Isabelle Fougereille est d'ailleurs vice-présidente en charge des mobilités. L'objectif, selon elle, c'est de créer et pérenniser un réseau de covoiturage sur le territoire.
C'est vrai qu'on a cette particularité sur le territoire de Laval Agglomération d'avoir une urbanisation et une densification de la population sur Laval, mais que très rapidement on retrouve un milieu rural et que en effet, notamment les dessertes en transport en commun ont une offre moins intéressante et que le covoiturage peut être un vrai complément et une réponse apportée aux salariés qui viennent de la seconde couronne notamment. Pour accompagner ce changement de comportement, cette incitation financière est vraiment essentielle. Et en effet, que le conducteur puisse être rémunéré selon un barème en fonction du kilométrage nous paraissait important.
Pour chaque trajet, le conducteur est remboursé à hauteur de 2 à 5 euros en fonction des kilomètres et c'est gratuit pour les passagers. La somme est prise en charge par la région et le dispositif Tous Covoitureurs. Julien Honard, le cofondateur de Klaxit, donne son mode d'emploi.
En tant que conducteur, vous allez pouvoir nous indiquer exactement là où vous pouvez prendre des passagers et comme ça on vous proposera des gens sans devoir faire de détour. Et pour les passagers, eh bien vous allez tout simplement pouvoir rechercher vos conducteurs. Même pour les personnes qui ont des horaires différentes qui peuvent être variables, en fait vous allez pouvoir avoir plusieurs conducteurs différents en fonction de vos contraintes du jour. Et en plus, on a une garantie retour qui vous permet, si votre conducteur annule dans la journée, de vous ramener chez vous gratuitement et sans avance de frais en taxi. Donc vraiment, on vous garantit, si vous utilisez Klaxit au lieu de votre propre voiture, que vous rentrez chez vous à l'heure et sans encombre.
De quoi séduire les salariés, d'après Benoît Loget, le directeur industriel de Bridor, qui s'est lancé dans l'expérimentation.
Bridor s'est inscrit dans un plan neutralité carbone 2030. Parmi les leviers dans notre programme RSE qu'on a imaginé, le covoiturage pouvait faire partie des solutions pour, je dirais, diminuer notre impact. Le deuxième point, c'est d'apporter une solution à nos collaborateurs qui parfois n'ont pas de moyens de transport ou qui déjà s'organisent en covoiturage plus ou moins organisé. Et le troisième point, c'est on est sur des plans de recrutement très élevés. On a besoin de plus de 150 salariés sur nos deux sites à horizon 2022. On a des jeunes populations qui parfois n'ont pas la possibilité ou n'a pas l'envie d'acquérir un véhicule. Et le fait de pouvoir apporter des solutions, je dirais, même lors de la phase de recrutement, peut être un moyen aussi de rassurer, de se différencier sur un marché de l'emploi sur lequel il y a un peu de tension, on peut que le reconnaître.
Klaxit se lance d'abord avec de grandes entreprises situées dans des zones commerciales ou industrielles denses, plus facile en tout cas pour les premiers covoiturages. L'ouverture au grand public, elle, se fera à partir du mois de septembre. Il n'y aura pas de fête de la musique dans 10 jours à Château-Gontier, mais en revanche, un programme bien chargé pour cet été. Trop compliqué hein, dans les conditions actuelles d'organiser une fête de la musique, assis avec jauge limitée. Mais en revanche, les festivités vont reprendre dès les 26 et 27 juin à Château-Gontier avec la Chalibaude, le festival d'art de rue estival, et le report d'une belle programmation d'après Benjamin Vinck, responsable de la vie associative et culturelle pour le pays de Château-Gontier.
Au programme, il y a 18 compagnies, dont 2 compagnies amateurs, mais 16 compagnies professionnelles qui sont le report en fait de la programmation 2020 qu'on n'a pas pu faire en raison de la pandémie qu'on connaît tous maintenant. Hein, voilà, donc c'est le report de toutes ces compagnies. Il va y avoir du cirque, il va y avoir du burlesque, il va y avoir du théâtre, il va y avoir de la chanson, il va y avoir de la musique, il va y avoir de l'acrobatie, de la danse. Pour maintenir la Chalibaude cette année, on ne pouvait pas la maintenir dans l'espace public sur les promenades de la Résistance et au Jardin du Bout du Monde comme on la connaissait traditionnellement. On a fait le choix de la déplacer du côté du Faubourg autour du pôle culturel des Ursulines. Et donc en fait, les espaces de jeu seront dans des cours fermés. Et en fait, la particularité de cette édition 2021, c'est qu'il faudra réserver votre place. Je sais que c'est pas chose courante pour tout festival d'art de rue, mais c'est une des conditions sine qua non pour le maintien. Donc il y aura une billetterie en place de réservation. Les spectacles sont toujours gratuits sur le site de la Chalibaude où vous pourrez réserver vos spectacles. Il y aura les programmes, les horaires. Faire votre petit planning, il faudra juste le prévoir un peu en amont et pas le jour J.
La billetterie sera très prochainement ouverte en ligne, mais l'été sera lui aussi ensuite riche en animation, comme le précise Nolwenn Guérin, adjointe au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne.
À partir du mois de juillet, en alternance une semaine sur deux, il y aura les vendredis de l'été qui se passent, ce sera des concerts musicaux qui se passeront au théâtre de Verdurazé, et puis le festival Calcirque qui aura lieu le mardi soir au niveau du cloître des Ursulines. Avec la commune nouvelle et surtout avec le pays de Château-Gontier, puisque le festival Calcirque est porté par le pays de Château-Gontier, mais c'était pour pouvoir offrir quelque chose, une activité culturelle dans la semaine, pour surtout l'été et pas seulement au mois de juillet, à la fois pour les habitants et à la fois pour les gens qui souhaitent venir en vacances sur le pays de Château-Gontier. C'était la priorité de relancer toutes ces actions, en fait, même à minima ou dans des conditions un peu particulières qui ne sont pas les conditions habituelles. Mais c'est important pour nous de relancer ces activités, ces événements culturels pour donner un peu de baume au cœur et un peu de perspective aux habitants.
Le programme complet des animations est à retrouver sur le site du Pays de Château-Gontier. Elle traite plus de 1200 situations par an. L'association départementale d'aide aux victimes d'infractions pénales de la Mayenne a donc une action très importante et on en parle juste après la pause musicale assurée par Elephants avec Come On, Come On.
I get some bruises on my shirt, I'm down. I've no connection on my brain cells. Morning is broken, I see parts of town. And broken glasses on the ground, well. What is you doing, babe? I can't tell. I feel a loss, I feel stuff don't go well. Before, yeah, before you say, I feel so little when we talk about that. Wake up! I get some odor in my face right now. Your words are crying from a pipe stem. There's a conundrum we don't solve it now. Unless you do try and forget it. What did you leave me for? I can tell. Some kind of vision tricks drove us to hell. Suspicious from every pore. And over time we'll all get used about that. Wake up.
Come on, come on, dans l'agité du local sur l'autre radio. Et puis, comme évoqué juste avant cette petite pause musicale, on va découvrir, ou en tout cas peut-être découvrir si vous en avez déjà entendu parler, le rôle de l'ADAVIP 53, l'association départementale d'aide aux victimes d'infractions pénales de la Mayenne. Restée très active, même en période de confinement, puisqu'elle traite environ 1200 situations par an. Elle est de plus en plus sollicitée pour intervenir auprès des victimes, comme son nom l'indique bien sûr, mais aussi des auteurs d'infractions pénales. Tour d'horizon de ces actions variées et indispensable avec sa directrice Valérie Moffron, juriste de formation.
L'ADAVIP 53, ça désigne initialement l'association départementale d'aide aux victimes d'infractions pénales de la Mayenne, c'est-à-dire que l'on dispose de plusieurs services, tendant à venir aider des personnes qui ont pu subir différents types d'infractions, des faits d'agression, de violence sexuelle, toute autre forme d'ailleurs d'infraction sexuelle, des faits d'usurpation d'identité ou encore ce que l'on appelle des atteintes aux biens, tels que des vols, des recels, des escroqueries, etc. Depuis plusieurs années désormais, nous sommes aussi compétents pour aider d'autres victimes, par exemple d'événements collectifs tels que malheureusement des actes de terrorisme, des catastrophes sanitaires, aériennes, ferroviaires, tels que voilà des accidents de train, les pandémies Covid, etc. etc. Au fur et à mesure des années, donc l'association existe depuis 30 ans et depuis de nombreuses années également, il y a un autre pôle désormais qui existe et qui vient finalement directement intervenir à l'attention des auteurs des faits, toujours dans une optique de prévention de la délinquance et donc au bénéfice indirect des victimes. Et donc on vient là intervenir auprès des auteurs pour les sensibiliser notamment à la gravité de tout passage à l'acte.
Donc ça veut dire qu'on peut venir vous voir pour quel cas? Vraiment, dès qu'on est victime d'une... On se sent en tout cas victime d'une infraction pénale, on peut venir vous voir? Comment ça se passe?
Tout à fait. En fait, les gens peuvent du coup venir nous voir, peu importe qu'ils aient déjà déposé plainte ou non. Hein, c'est vraiment indépendant de toute démarche préalable que les gens peuvent s'adresser à nous. Donc ils peuvent nous contacter soit par téléphone, soit venir nous voir à nos permanences à Laval ou sur le département. Ils peuvent aussi nous contacter par courrier, par mail, etc. Notre intervention est totalement gratuite et confidentielle, bien sûr. Nous sommes habilités par le ministère de la Justice. Et en fait, ça nous amène à travailler en lien très 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 étroit avec certains partenaires, notamment le ministère ou même le tribunal judiciaire de Laval, qui, eux aussi, par exemple, peuvent nous demander d'intervenir au bénéfice de quelqu'un. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on n'attendra pas, entre guillemets, que les gens nous contactent, mais lorsqu'une situation se présente et que, par exemple, il y a une audience à venir rapidement, eh bien, le procureur de la République, par exemple, va nous transmettre les coordonnées des gens et puis nous demander de bien vouloir nous mettre à leur disposition, savoir s'ils souhaitent bénéficier de notre aide gratuite.
Et donc, dans le cadre de ces procédures-là, donc même dans un procès, comment est-ce que vous intervenez?
Alors en fait, donc on va intervenir dans un premier temps pour proposer de l'écoute et du soutien. C'est souvent quelque chose qui est très très attendu par les gens qui se confient à nous. Parfois, donc on est les premières personnes hein, auxquelles les gens expriment leurs sentiments, leur colère, leurs craintes, leurs interrogations. Donc il y a une grosse dimension d'écoute. Et puis après, bien sûr, on va renseigner les gens sur leurs droits, sur la façon dont il faut procéder pour que leurs droits soient exercés de façon recevable, parce qu'il y a des fois des conditions pour que les droits ne tombent pas à l'eau, entre guillemets. On va aussi expliquer les termes juridiques parfois bien complexes pour des personnes qui, bien sûr, n'ont pas forcément étudié le droit. On va expliquer aussi le déroulement d'une procédure, donc quelqu'un qui, par exemple, envisagerait de déposer plainte, on va lui expliquer comment va être traitée la plainte, quels seront les acteurs qui vont intervenir aussi, et puis on pourra donc aider les gens, s'il y a audience par exemple, à solliciter des dommages et intérêts, puisque des fois, certaines personnes veulent un avocat, donc on peut faciliter le lien avec ces professionnels, et des fois, les victimes ne veulent pas nécessairement d'avocat, donc on sera là justement pour garantir le fait que les droits seront exercés dans les conditions qui s'imposent. En fait, pour résumer, je dirais que nous, les associations comme les nôtres, hein, il en existe au moins une par département, justement, habilitée par le ministère. Notre vocation, c'est d'être là et d'avoir les réflexes que les victimes n'auront pas toujours, soit parce que la justice va trop vite, soit parce qu'elle est trop compliquée. Donc en fait, on pourra intervenir à tout moment de la procédure pénale, jusqu'à même l'exécution du jugement, c'est-à-dire le paiement concret des dommages et intérêts qui auront été accordés. Notre aide ne va donc pas forcément s'arrêter au jour de l'audience, mais par exemple même plusieurs mois, voire plusieurs années après, lorsque des gens se disent « Ah ben tiens, je n'ai pas reçu le paiement ou alors le paiement intégral de ce qui m'a été accordé ». Donc là, on va pouvoir toujours gratuitement, bien sûr, peu importe les revenus des gens, les aider gratuitement, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, de majeurs, de mineurs, de victimes directes, voire même indirectes, on sera là quel que soit le moment où on fait l'appel à nous.
Est-ce que, du coup, quand les personnes qui viennent vous voir ont déjà un avocat, c'est pas forcément utile que votre aide soit là aussi, ou au contraire, ça peut être complémentaire ?
Alors ça peut être tout à fait complémentaire. Effectivement, certaines personnes du coup n'en ressentiront pas le besoin parce que préféreront s'adresser aux avocats. Et pour d'autres, au contraire, alors même qu'il y a un avocat, certains vont même nous demander des fois de venir les accompagner au rendez-vous avec leurs avocats, ce qui d'ailleurs est généralement tout à fait accepté par les avocats, dans le sens où vraiment notre rôle va être complémentaire. Il va être, je dirais, de vulgariser des fois le droit, de le rendre très accessible, alors que bien sûr, ce n'est pas toujours un temps que les avocats vont pouvoir mettre au bénéfice de leurs clients. Hein. C'est normal, c'est une autre mission. Les avocats sont là, bien sûr, pour conseiller, pour représenter et pour défendre ou soutenir les intérêts de quelqu'un. Nous, on va être là vraiment pour écouter, pour informer. Et puis, donc, justement, les rôles pourront être tout à fait complémentaires, même d'ailleurs au procès, hein, où il nous arrive d'accompagner des gens aux audiences, notamment devant les cours d'assises. Et c'est souvent vu de façon très bénéfique par les avocats qui pourront, eux, se concentrer sur leur mission même, ben, justement, de défense des intérêts de leurs clients. Et puis nous, donc, on sera là plus pour une dimension sociale d'accompagnement et de présence, en fait.
Et vous le disiez, donc, depuis, évidemment, la création et depuis quelques années, votre champ d'action, il s'est aussi élargi par rapport, notamment, il y a quelques années, aux victimes d'attentats terroristes, etc. Est-ce que, oui, ici, en Mayenne aussi, vous avez été confronté à ça ou pas forcément ?
Si, on accompagne d'ailleurs toujours une situation qui s'inscrit malheureusement dans un cadre terroriste, effectivement. Donc, on peut tout à fait être concerné. C'est vrai que, malheureusement, la société est confrontée à toujours plus de faits de nature très grave et diversifiée. Et donc, on intervient aussi, même à l'heure actuelle encore, pour accompagner une situation, justement, qui a été confrontée à cette gravité-là de faits, oui.
Toutes les, alors je dis les femmes, mais pas forcément les femmes, mais en tout cas les personnes victimes de violences conjugales, ça fait aussi partie d'une population que vous accompagnez particulièrement ?
Oui, tout à fait. C'est depuis donc des années que nous sommes particulièrement sensibles à cette problématique-là. C'est vrai que les faits de violence que l'on peut connaître, ils sont commis finalement dans tout milieu, y compris conjugal, voire intrafamilial, parce qu'on parle même d'intrafamilial pour inclure les enfants ou parfois des violences commises à l'encontre des ascendants, des grands-parents, etc. Mais c'est effectivement une partie importante du public que l'on accompagne et d'ailleurs qui est accompagnée aussi par notre psychologue, puisqu'en fait, notre équipe se compose de professionnels de diverses formations, donc juriste, psychologue et même donc une intervenante sociale. Et donc c'est vrai que ce sont des personnes pour lesquelles on est vraiment très présent. On mène aussi des actions de sensibilisation auprès de professionnels pour essayer de faire en sorte que même des professionnels puissent toujours mieux repérer des situations de violence conjugale qui se présentent à eux, pouvoir identifier quelles sont entre guillemets les bonnes attitudes à avoir ou les bons relais à communiquer. On travaille donc aussi justement avec des partenaires, hein, qu'il s'agisse des partenaires de l'hébergement, de la santé, le centre départemental bien sûr d'accès au droit, le conseil départemental d'accès au droit, le CDAD. Et puis c'est vraiment un travail de réseau qui permet vraiment d'aboutir à la meilleure prise en charge de la victime. Il arrive que parfois des victimes a fortiori de violences conjugales nous sollicitent pour une première démarche, nous disent ne pas se sentir nécessairement prêtes pour aller plus loin, entre guillemets. Alors ça peut être une main courante, un dépôt de plainte ou autre. Dans ces cas-là, nous, bien sûr, l'idée, c'est d'avancer selon le rythme de la personne. Hein. C'est la personne qui va faire ses choix. On ne se substituera jamais à elle. Et c'est ce qui va permettre aussi à ces gens de cheminer à leur rythme pour quand elles le souhaiteront, quand ces personnes le souhaiteront, justement, pouvoir trouver là, justement, des professionnels de confiance pour pouvoir être guidées toujours à leur rythme, justement, dans les démarches qu'elles voudront désormais faire, même si ce sera au bout d'un certain temps. Notre accompagnement peut toujours s'inscrire dans la durée. Hein. Il peut être ponctuel selon le souhait de la personne ou s'inscrire dans la durée. Il sera toujours personnalisé.
Dans le cadre de violences conjugales, il y a le téléphone grave danger qui a été mis en place. Vous êtes chargé justement de repérer du coup quelle personne pourrait être susceptible de l'avoir ou de l'accompagnement. Comment ça se passe ?
Oui, tout à fait. C'est même depuis 2016 en fait que ce dispositif existe sur le département. Par contre, depuis plusieurs mois, donc il y a maintenant un téléphone en plus, à savoir qu'il y en a désormais 5 pour le ressort de la Mayenne. On pourrait penser que c'est un chiffre faible, mais en fait, ça semble correspondre tout à fait aux besoins du ressort là de la Mayenne. Et donc, c'est effectivement nous qui, seule association du département, sommes compétentes, je dirais presque du début à la fin, c'est-à-dire que de notre propre initiative, ou alors à la demande des partenaires et a fortiori sur réquisition du tribunal de Laval, on peut tout à fait être saisi pour évaluer le besoin qu'il y aurait pour une personne de bénéficier de ce dispositif de protection. Donc dans ces cas-là, on va contacter la personne qui sera nécessairement une femme et nécessairement victime soit de violences conjugales, soit de viol, donc même hors cadre conjugal hein, pour les viols. Et alors, donc, il nous appartiendra d'échanger avec cette dame, de faire un point sur sa situation, sur le fait de savoir si c'est quelqu'un d'isolé, si des violences ont pu être répétées, s'il y a des menaces, etc. Et après, donc, c'est le magistrat qui est destinataire de notre rapport, puisque c'est une des rares situations où il nous appartient, bien sûr, de faire un retour au magistrat, qui lui va apprécier du coup la décision finale d'octroyer le téléphone. Et si le téléphone est octroyé, c'est nous qui irons aussi avec la victime auprès du magistrat pour la remise du téléphone et puis pour être l'interlocuteur privilégié durant tout le temps du dispositif en fait.
Et donc c'est vrai qu'en plus de toutes ces missions, vous le rappeliez au début, vous intervenez aussi auprès des auteurs d'infractions. Comment ça se passe? De quelle manière?
Oui, alors du coup, on a donc diverses missions concernant les auteurs d'infractions. Par exemple, on intervient dans le cadre de stages qu'on appelle stages de citoyenneté, c'est-à-dire que c'est un autre partenaire là sur le territoire donc qui est pilote, entre guillemets, de certains stages qui se déroulent pendant plusieurs jours. Et donc, dans le cadre de ce stage, il nous est demandé, nous, d'intervenir pour créer un échange de 2 heures avec les stagiaires. On appelle donc des stagiaires, mais des personnes auxquelles des faits ont pu être reprochés ou sont reprochés. Et donc là, l'enjeu, c'est de pouvoir non pas faire un sermon, hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger, sensibiliser les personnes concernant justement la gravité d'un passage à l'acte à l'égard d'une victime, la situation dans laquelle se trouve la victime parce que elle va avoir à gérer tout un tas de démarches et puis des émotions aussi après le constat d'une infraction dont elle aurait été victime justement. On peut aussi intervenir en tant que délégué du procureur. Donc là, ce sont des personnels de mon équipe qui sont amenés à exercer des missions qui sont donc confiées par le procureur. Par exemple, des rappels à la loi ou des classements sous condition, classement d'un dossier sous la condition justement, par exemple, qu'un stage soit effectué, que des soins soient engagés auprès de professionnels de santé, s'il y a une addiction quelconque, etc. Et puis, on va aussi, par exemple, intervenir dans le cadre d'enquête. C'est-à-dire que pour que les magistrats, au jour d'une audience, puissent apprécier la peine qui semble la plus adaptée de donner à une situation, et sans avoir à ouvrir simplement, je dirais, le code pénal et d'appliquer la peine encourue, hein, pour pouvoir apprécier le montant de peine, entre guillemets, le quantum de peine, eh bien, les magistrats, partout en France, hein, s'appuie sur des enquêtes sociales ou des enquêtes de personnalité qui vont permettre de se représenter le parcours de vie d'une personne, etc., etc.
Valérie Moffron est entourée de 8 collègues avec lesquels elle assure plusieurs permanences, l'une tous les jours au tribunal judiciaire de Laval et d'autres plus ponctuelles au commissariat de Laval, au centre hospitalier à Mayenne, Évron ou même Château-Gontier. Vous pouvez contacter la DAVIB 53 au 02 43 56 40 56. Et puis je vous offre une petite pause musicale. Évidemment, aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de l'Euro de football, Euro 2020, reporté en 2021. Et à cette occasion, je vous propose d'écouter l'hymne écrit par Youssoufa pour justement encourager les Bleus pour l'Euro. Ça s'appelle « Écris mon nom en bleu ». Crie mon nom en bleu, je vous propose d'écouter ça tout de suite.
Écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1. Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s'écarter, le camp sera gardé.
Chaque blaze est lourd de sens. Ces jours de chance mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose. Note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Hein. La terre du milieu, c'est le cœur du jeu. Ceux qui ont grandi dans les flammes n'ont pas peur du feu. Deux étoiles gravées dans le roc, mais là c'est une autre histoire sur les routes de l'Europe. Oh, bagaille, pas de faille, qui dit qu'on n'est pas de taille. Aucune prétention, juste assumée dans la bataille bleue. Millions de supporters quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Pour écrire mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Hein. À l'attaque, jamais plié. Même si elles sont loin, on entend nos foules crier. Bien sûr qu'il faut prier. L'histoire est superbe, mais c'est pas la guerre des étoiles. On est bien sur terre, unis, unis, bénis ou punis. Faites vivre les rêves, qu'on s'élève, qu'on soit unique. Unis comme millions de supporters quand je pose. Note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Je rêve que t'écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Hein.
C'était Youssoufa, écrit mon nom en bleu, donc pour cet hymne, pour encourager les Bleus à l'Euro, les Bleus qui donc jouent leur premier match ce mardi contre l'Allemagne. Mais allons pas trop vite puisque nous sommes bien vendredi, et vendredi nous faisons un tour d'horizon du service civique au micro aujourd'hui de Jet FM à Nantes avec l'association Môme Nantes, implantée dans le quartier de Bellevue-Chantenay à Nantes, qui accueille des enfants autour d'activités artistiques le soir après l'école, les mercredis et pendant les vacances, pour ainsi rendre accessible la culture à tous les enfants. Rencontre avec Lisa et Tricina, volontaires au sein de cette association.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
L'association Môme Ouest, implantée dans le quartier de Bellevue-Chantenay à Nantes, accueille des enfants de 6 à 11 ans autour de vraies activités artistiques le soir après l'école, les mercredis et pendant les vacances. Au programme, ateliers de musique, danse, théâtre, contes, sorties culturelles ou encore jeux collectifs autour du vivre ensemble. Montmartre est donc un mode de garde alternatif qui rend accessible la culture à tous les enfants. Aujourd'hui, nous rencontrons Lisa et Tricina qui vont nous parler de leur expérience du service civique au sein de cette association.
Je m'appelle Lisa, j'étais en service civique à Môme Nantes du septembre à avril. Et donc voilà, mon parcours sinon, j'avais fait une phobie scolaire quand j'étais en seconde, là j'ai 20 ans, donc je me suis construite moi-même un parcours artistique.
Et moi je m'appelle Tricina, j'ai 20 ans, j'ai fait un bac littéraire option mathématiques dans l'objectif de devenir architecte plus tard.
D'accord.
Donc j'ai commencé des études d'architecture et au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, j'étais pas assez épanouie. Ce qui fait que j'ai demandé d'arrêter ces études et je me suis dit il faut vraiment que je trouve quelque chose, être utile. Pourquoi pas vraiment faire un métier qui soit polyvalent, utile, et etc. Et j'ai voulu trouver un service civique en fonction de ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un service civique auprès des enfants, puisque à l'avenir, j'aimerais pourquoi pas devenir professeur des écoles. Le côté social, aider quelqu'un, l'élévation mutuelle entre les enfants et moi-même, je trouvais que c'était vachement intéressant. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à trouver le service civique à Môme Nantes. Moi, je m'occupe surtout de la partie communication de l'association. Donc je fais des flyers, des affiches, etc. pour prévenir des stages à venir et des choses comme ça. Et à l'avenir, je devrais proposer aussi des ateliers artistiques moi-même.
Mes missions, c'était de préparer des ateliers pour les enfants. Sinon, j'accompagnais les enfants sur les ateliers, j'allais les chercher à l'école, je préparais les commandes de goûter toutes les 2 semaines.
Pour toi, Trifina, qui vient de démarrer ta mission, qu'attends-tu du service civique en termes d'expérience et d'acquis ?
Alors justement, moi j'étais dans un parcours architectural, donc rien à voir. Et ce que j'attendais de Momenante, c'était justement pouvoir me familiariser avec les enfants, puisqu'à l'avenir, je souhaite donc, pourquoi pas être professeur des écoles, et je connaissais pas vraiment le public des enfants à l'époque. Et je me suis dit, c'est vraiment une belle opportunité, parce que c'est pas vraiment le métier de professeur qui va s'apprendre grâce à ce service civique, mais c'est plutôt comprendre les enfants, essayer de savoir ce dont ils ont envie, des choses comme ça. Et aussi l'aspect artistique qui me plaît beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas. Mm-hmm. Donc acquérir de l'expérience, gagner un peu en confiance en moi aussi, parce que c'est pas vraiment ce qui était au rendez-vous à la base. En service civique, on pense qu'il y a forcément le service civique, donc les actions qui sont à mener, mais aussi à côté des formations. Par exemple, on a le PSC1 qui est proposé. Il y a aussi une formation citoyenne, donc c'est assez intéressant de pouvoir avoir ces apports de connaissances dans le service civique. Et on a aussi... on est à la radio aujourd'hui, quoi, donc on ne s'y attend pas du tout. Et puis au final, on est là. Quoi.
Lisa, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce service civique? Comment t'étais quand t'es arrivée? Et qu'est-ce que t'as gagné en termes de compétences ou même de caractère?
Alors, comment j'étais quand je suis arrivée à Momenante? J'étais pas très sûre de moi, en tant que moi, personne humaine. Et ça m'a apporté un peu de confiance, surtout au niveau relationnel. Je sais gérer quelque chose. Ça faisait longtemps que j'avais eu... quelque chose de très... un peu professionnel, rien que l'école. Comme ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, j'avais pas eu ça. Ça m'a beaucoup apporté en confiance, en fait. Au niveau des compétences, eh bien, il y a pas mal de compétences au niveau gestion des enfants aussi. Les accompagner dans leurs émotions et aussi dans leur rapport avec d'autres personnes. J'ai des collègues, on travaille ensemble, on construit quelque chose ensemble. On s'arrange les uns les autres, etc.
Comment vous deux envisagez-vous la suite de votre parcours après le service civique? Pour toi, Trifina, qu'est-ce que tu imagines par la suite? Et pour toi, Lisa, qui vient de finir, qu'en est-il de la réalité?
Alors, moi, j'aimerais bien aller dans une fac. Pourquoi pas faire une licence de lettres-langues, donc double licence, pour justement, encore une fois, pour le parcours professeur des écoles. Et garder une polyvalence, pas juste faire une licence de lettres ou juste une licence de langue, faire bien les deux. Et sinon, m'orienter vers les métiers de l'écrit, parce que j'aime beaucoup écrire aussi. Donc, voilà.
Et moi, peut-être passer mon BAFA, ça j'en suis pas encore sûre. Me professionnaliser en tant qu'artiste. Et donc continuer à faire des ateliers avec les enfants, mais justement en tant qu'artiste et pas en tant que personne au sein de l'asso elle-même.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités. Une production des radios de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Prochaine et dernière chronique de la saison, vendredi prochain. Et oui, vendredi, nous aurons terminé tout notre tour d'horizon du service civique dans la région. C'est désormais l'heure des initiatives et pour commencer, à vos CV pour le job dating prévu à Château-Gontier vendredi prochain. Ce sera donc le 18 juin et ce sera organisé par SPIE Industrie et Tertiaire pour des offres d'emploi dans le secteur industriel justement. Rendez-vous de 17h à 19h30 dans leur agence à Château-Gontier. Sont recherchés notamment en CDI, des électriciens qualifiés avec CACES, des chefs d'équipe ainsi que des chefs de chantier. Si vous êtes intéressé et que vous avez le profil, vous pouvez envoyer votre CV à thomas.guillorel@spie.com pour vous inscrire ou bien rendez-vous sur SPIE Job pour trouver les offres. Et puis ça y est, le répare café de Mélé du Maine ouvre ses portes. On vous en avait déjà parlé dans nos reportages il y a quelques mois. Le projet est donc bien sur pied pour aider à réparer soi-même son électroménager, son ordinateur ou pourquoi pas ses vélos grâce à des bénévoles compétents. C'est une manière de moins gaspiller, de moins jeter, mais aussi de faire des économies. Le lancement se fera donc vendredi 18 juin de 18h à 20h à l'espace Mélinois à Mélé du Maine. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire au préalable au 02 43 64 39 98 ou par mail à e.melinois@ville-melledumaine.fr. Et évidemment, que serait cette émission du vendredi sans forcément la revue de presse du Haut-Anjou et à la une ce vendredi? Des lycéens qui cohabitent avec des faucons. Oui, oui, c'est possible dans la région, et notamment à Segré, en Anjou Bleu, au lycée Blaise Pascal, où 15 nichoirs ont été installés. Un couple de faucons y a donc élu domicile, et trois petits fauconneaux, c'est comme ça qu'on appelle les bébés faucons, je ne savais pas, trois petits fauconneaux sont nés le 24 mai dernier. Le lycée qui est donc refuge LPO depuis 2015. Et le faucon crécelle, c'est donc la une deuxième rapace le plus abondant du Maine-et-Loire, mais aussi de la France de manière générale. Et puis, un moment très attendu, en tout cas, c'est ce qu'on apprend dans l'article, c'est le premier envol des fauconneaux. Ça devrait être d'ici quelques semaines. Et puis, une championne à Château-Gontier, Chloé Bréhin, se prépare pour les Jeux Olympiques. Alors, non pas pour cet été, mais pour les JO 2024. Elle est encore jeune, elle a 18 ans, et elle est licenciée au club d'Azé Pégase BMX. Elle fait déjà partie du pôle France Jeune BMX de Bourges, mais va intégrer encore une autre étape, le pôle olympique sportif en septembre prochain. Elle passe là son bac et aimerait ensuite faire une école d'infirmière, et oui, parce que le BMX n'est pas un sport, en tout cas pour le moment, qui permet d'être suffisamment en tout cas connu pour en vivre, c'est ce qu'elle explique justement dans ce papier. Et la prochaine échéance, c'est donc la Coupe d'Europe, ce sera les 19 et 20 juin prochains. Et puis, autre sujet que vous pouvez aussi retrouver dans le Haut-Anjou, c'est le projet d'hippodrome débloqué à Cran. Et c'était très attendu. Les élus ont voté le 2 juin la rétrocession à la communauté de communes d'une parcelle, vraiment qui était très disputée, et notamment au temps de l'ex-municipalité. Elle bloquait justement les projets d'évolution de l'hippodrome, qui notamment maintenant envisage de reconfigurer ses pistes, et puis aussi de faire des travaux pour que la circulation routière ne soit plus perturbée. C'est donc tout ça des sujets à retrouver dans le Haut-Anjou en kiosque dès aujourd'hui. Mais bien sûr, ça y est, c'est la fin de l'AJT du local pour ce vendredi et donc pour cette semaine. Mais à l'antenne, évidemment, ne partez pas puisqu'à 20h, il y a Passe-moi le thème qui met le feu dans la playlist puisque oui, le feu, c'est le thème du jour. Nous, on se retrouve lundi en compagnie de Claire et je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.